France Culture.
Réplique, les Juifs et la France, avec Bruno Carsanti et Denis Oliven. Dans le dictionnaire amoureux des Juifs de France de Denis Oliven et dans les paradoxes de l'intégration, l'Europe et les Juifs de Bruno Carsanti, on trouve la phrase « Heureux comme Dieu en France ». Avant de nous demander si cette expression est toujours d'actualité, je voudrais savoir d'où elle vient et ce qu'elle signifie exactement, Bruno Carsanti.
Alors sur la généalogie de l'adage, je ne saurais pas vous éclairer. En revanche, sur le sens de l'adage, je pense qu'il faut souligner d'abord ce que l'adage ne dit pas. Il ne dit pas « heureux comme les Juifs en France ». Il dit « heureux comme Dieu en France ».
Mais c'est les Juifs qui le disent.
C'est les Juifs qui le disent.
Et quels Juifs d'ailleurs ?
Ceux qui se sentent avec Dieu, heureux comme eux.
Ils le disent à partir de 1880, c'est ça, autour de 1880.
Moi, je pense que ça vient avant, peut-être. En tout cas, si l'adage a une origine yiddish, c'est relativement tardif dans le 19e, bien sûr. Il a une origine plus ancienne, peut-être que le début du 19e pourrait être le moment de la naissance. Mais j'insiste sur la différence avec « heureux comme les Juifs en France », ce que l'adage ne dit pas. Ce qu'on entend dans « heureux comme Dieu en France », ce que les Juifs entendent, je crois, c'est l'accent exilique de l'adage. C'est la présence de Dieu, c'est Dieu en sa présence, c'est la Shekhina, en fait, qui est présente dans l'adage. Et donc, c'est Dieu qui se déplace avec son peuple et qui est heureux que ce peuple, en France, bénéficie de conditions favorables. Donc, c'est un adage qui reste prémoderne en parlant d'une situation moderne.
D'accord.
Avoir une grille exilique longue pour parler d'une situation post-émancipation, pour parler de la France post-révolutionnaire. Donc c'est sa beauté, en fait.
Denis Oliven,
explication. C'est un adage yiddish à l'origine. Donc quand on voit quand les Juifs sont venus en France, venus d'Europe centrale ou orientale, ça commence en effet à peu près à la fin du 19e. Donc ils ont incubé les effets de l'émancipation, et à mesure que les persécutions s'aggravaient dans l'Europe de l'Est, en Russie et dans l'Europe centrale et orientale, ils sont venus en France progressivement. C'est un adage d'ailleurs qui a ensuite transité vers les Allemands, parce que l'expression est devenue allemande, elle a fait l'objet de livres allemands qui n'avaient plus rien à voir avec les Juifs. Je crois qu'on peut l'interpréter de la manière suivante, c'est, en dehors de l'interprétation que vous venez de donner, c'est l'émancipation, ce phénomène extraordinaire qui se produit en 1791, d'une manière inédite, et qui... Il faudra attendre longtemps avant que d'autres pays suivent. Donc cette révolution s'exprime de la manière suivante. La France offre la possibilité aux Juifs d'entrer dans la citoyenneté sans renoncer à être eux-mêmes et sans renoncer au droit de confesser leur propre religion. Ils sont des citoyens de plein exercice dans la sphère publique. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. Ils sont indiscriminés, ils sont indifférenciés et ils ont le droit notamment de confesser leur religion particulière dans leur vie privée. Donc heureux comme Dieu en France, ça peut aussi s'interpréter comme heureux parce que les Juifs peuvent être des citoyens de plein exercice sans renoncer à leur Dieu, sans renoncer à leur religion, sans renoncer à leur particularisme religieux. Et ça, c'est une exception française dans le monde du 19e siècle qui commence en 1791.
Alors, je voudrais vous donner maintenant l'interprétation du romancier américain Saul Bellow. Il demande ceci. Pourquoi, depuis des siècles maintenant, Paris attire-t-il tant l'attention ? Tout simplement parce que c'est la ville sainte de la laïcité. Wie Gott in Frankreich. Ainsi, les Juifs d'Europe centrale résumaient-ils le parfait bonheur? Cette expression m'a longtemps intrigué, et je crois pouvoir maintenant l'interpréter. Dieu serait parfaitement heureux en France parce qu'il n'y serait pas dérangé par les prières, rites, bénédictions et demandes d'interprétation de délicates questions diététiques. Environné d'incroyants, lui aussi pourrait se détendre le soir venu, tout comme des milliers de Parisiens dans leur café préféré. Peu de choses sont plus agréables, plus civilisées qu'une terrasse tranquille au crépuscule. Alors, c'est très beau, très paradoxal, en même temps ça serre le cœur, quand on pense à ce qui s'est passé en 2015 dans certaines terrasses du 10e arrondissement, quand on pense aussi à ces paroles violentes de Médine, du chanteur Médine, « Crucifions les laïcars comme à Golgotha », quand on pense aussi à la dénonciation par une partie de la gauche de l'interdiction du voile et de la baïa à l'école, jugée islamophobe, et on peut se demander si Dieu, le Dieu de Bello, serait aussi heureux en France qu'il ne l'était quand Bello, justement, prenait son café dans une terrasse parisienne. Donc, voilà, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Mais maintenant, après cette parenthèse, restons-en à l'émancipation. C'est-à-dire, que s'est-il passé à ce moment-là de vraiment révolutionnaire et d'extraordinaire ? Bruno Carsanti.
Alors, ce qui s'est passé d'extraordinaire, c'est que des Juifs, à l'époque, des Juifs extrêmement différents entre eux sur le territoire français, se trouvaient accueillis, recevaient une proposition uniforme, celle du droit. Celle du droit, vous l'avez dit, liée à la citoyenneté, celle des droits civils et politiques égaux avec tous les autres citoyens, et celle du droit, effectivement, de confesser leur religion, donc du droit de rester juif sur un mode confessionnel, mais du droit de rester juif. Alors tout dépend évidemment comment ces différentes parties de la communauté nationale vont interpréter ce droit de rester juif. Là, il y aura des accents différents. Mais ce qui est nouveau, effectivement, c'est le droit. Alors en quoi c'est nouveau le droit ? C'est nouveau parce que ça rompt avec la logique antérieure, prémoderne, que les Juifs ont toujours connue, expérimentée, qu'ils vont continuer à expérimenter au long du 19e siècle, hein, ailleurs qu'en France, parce que la France ne reviendra pas sur 1791. Ce qui est nouveau, c'est la rupture avec la logique de l'octroi. Hein, c'est à ça qu'il faut se référer pour comprendre la nouveauté. Hein. Les Juifs n'ont plus à demander des privilèges, des concessions, des grâces au souverain, parce que le souverain, d'une certaine manière, c'est eux. C'est-à-dire, ils montent dans l'instance, potentiellement, hein, pas tous d'abord, évidemment, puisque le suffrage universel n'est pas encore en vigueur, mais ils montent dans la confection, la fabrication de la loi commune. Hein. Et donc, ils sont aux deux points de la souveraineté moderne. Hein, comme ses sujets et comme ses auteurs. Et ça, c'est très nouveau du point de vue juif. Je prends le point de vue juif. Ce qui est nouveau, hein, c'est que des juifs, les juifs, hein, soient au niveau de la loi commune, de la fabrication de la loi commune, de l'édiction de la loi commune pour des non-juifs, donc.
Oui, c'est ça.
Pour des non-juifs. Donc, le droit subjectif, le droit individuel, mais aussi l'accès à la souveraineté. Et à la souveraineté des nations modernes. Hein. Pas à une souveraineté juive. Souveraineté juive, bien sûr. Hein. Mais à la souveraineté des nations modernes.
C'est ça.
Et la question, évidemment, du sionisme au bout de l'histoire va renouveler la problématique.
Oui,
mais c'est sur la base d'une problématique qui est celle de l'émancipation. Donc vous voyez, même à partir de l'émancipation, on a le moyen de mieux comprendre ce qui se joue dans le sionisme.
D'accord. Alors simplement, il y a aussi cette phrase très célèbre de Clermont-Tonnerre, « Tout accordé aux Juifs comme individus, ne rien leur accorder comme nation. Qu'est-ce que ça signifie, Denis Oliven ?
C'est ça qui est vraiment révolutionnaire, parce que ça signifie en fait tout accorder aux Juifs comme individus, mais rien comme communauté. Il faut entendre nation comme communauté. Jusqu'à la Révolution, les Juifs sont une minorité qui n'a pas de droit, qui ne fait pas partie, qui n'est pas sujet du monarque et qui n'a pas de droit. À partir de la Révolution de 1791 et de l'Évolution, ils entrent dans la nation. On passe d'ailleurs, c'est à ce moment-là que la nation se constitue comme souverain. Donc ils entrent de plein droit dans la nation comme les autres, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. Ce qui est complètement inattendu, ce qui est une rupture complète. Mais s'ils rentrent dans un modèle qui est le modèle qui va être celui de la République, et d'ailleurs lui-même assez original, dans lequel tous les citoyens sont dans cette situation indifférenciée. Donc on est dans la sphère publique, on a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres, et ce qui vous est particulier, c'est dans la sphère privée. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on passe du statut de juif au statut de français de confession israélite, ou israélite tout simplement, pour bien manifester qu'on n'appartient pas à un peuple différent du peuple français, on est pleinement au sein du peuple français, simplement on a un particularisme, comme d'autres sont protestants. 1791 est le début du processus qui va s'accomplir d'une manière absolument incroyable au cours des temps. Je cite quelques exemples de ce que ça signifie. En 1848, pour la première fois dans l'histoire de l'Occident, des ministres qui sont juifs, qui n'ont pas renoncé à être juifs, entrent dans un gouvernement. C'est Crémieux. En 1870, la France confère à ses indigènes juifs d'Algérie la nationalité française. En 1895, c'est l'affaire Dreyfus, dont on peut dire que c'est une poussée d'antisémitisme, mais qui, à l'inverse, voit se dresser, main dans la main, juifs et non-juifs, Peggy, Zola, Blum, Jaurès, pour défendre un capitaine juif injustement accusé parce qu'il est juif. Ça fera dire d'ailleurs au père de Lévinas, un pays dans lequel on défend un capitaine juif, c'est là qu'il faut aller vivre. En 1926, je crois, Alexandre Millerand, dont la mère est juive et qui a été en butte à l'antisémitisme, est élu président de la République. En 1936, le premier président d'un conseil des ministres d'un pays occidental juif qui n'a pas renoncé à être juif, c'est Léon Blum. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que ce qui se déclenche en 1791, c'est la chose suivante. Si vous êtes de bons Français, si vous respectez les devoirs des bons Français, vous avez les mêmes droits et on se fiche que vous soyez juif. Ça ne vous empêchera pas de vous accomplir. Et à travers d'abord Napoléon, auquel je consacre une notice, à travers les décisions de la monarchie de Juillet, à travers ensuite le Second Empire, notamment sur le plan économique, et la Troisième République, les Juifs vont en effet s'accomplir dans la nation comme intellectuels, comme magistrats, comme médecins, comme scientifiques, exactement à part égale avec les autres. Et c'est ça qui est totalement inouï, et c'est ça l'émancipation. Alors ça veut dire aussi, par rapport à, disons, à ce que nous avons connu, nous, dans les années récente, le droit à la différence, on pourrait le caractériser comme le droit à l'indifférence. Oui. Le droit à l'indifférence. Les Juifs sont indifférenciés, c'est une révolution, et les autres pays occidentaux suivront ce modèle bien plus tard.
C'est un droit, d'ailleurs, qui a été très fortement contesté. Vous parliez de Léon Blum, Maurras disait « il est à fusiller, mais dans le dos ».
Parce qu'en effet, c'est pas parce que... Il y a une chose assez frappante quand on traverse l'histoire depuis 1791. Il y a une chose assez frappante, c'est que ça ne signifie pas que l'antisémitisme a disparu.
Non, bien sûr.
L'antisémitisme, au contraire, presque en réaction à cette émancipation, va se déployer, notamment à partir des années 1840. Et puis, il va flamber au moment de l'affaire Dreyfus et reflamber dans les années 30. Ça ne signifie pas que les préjugés ont disparu. Ça ne signifie pas que l'antisémitisme a disparu. Mais ça veut dire que la construction juridique et politique française, malgré l'antisémitisme, permet aux Juifs de s'accomplir.
Voilà. Et un des moments forts de cet accomplissement, c'est le franco-judaïsme. Alors, qu'est-ce que c'est, le franco-judaïsme ? Comment le définir, Bruno Carsanti ?
Tout dépend de la force qu'on met, le poids qu'on met dans judaïsme, dans franco-judaïsme, et du rapport à la France qui se détermine depuis quelque chose qui reste du judaïsme. Ce que je dirais, d'abord, c'est que sur la phrase de Clermont-Tonnerre qui donne le coup d'envoi, il y a une réponse juive. Hein, c'est la réponse du Grand Sanhédrin en 1807. Hein, c'est « nous déclarons, sur le questionnaire napoléonien, que nous ne sommes plus un corps de nation ». Alors moi, je me suis demandé, à partir de quand commence le fait que les Juifs ne sont plus un corps de nation ? Je pense que, au fond, la phrase de Clermont-Tonnerre révèle quelque chose, qui a été très bien souligné par Denis Oliven, mais masque aussi autre chose. Et c'est là, peut-être, que le franco-judaïsme peut être approché de façon intéressante. Ce qu'il masque, c'est le fait que les Juifs sont un sous-groupe qui a une histoire, une communauté, qui a une histoire singulière dans l'Europe moderne, qui tient d'abord au fait d'être une histoire autochtone. C'est une communauté qui est vue comme étrangère, mais étrangère de l'intérieur. Dans tous les pays d'Europe, elle est là. Hein. Elle est là comme étrangère. Hein. Donc, cette présence fait qu'elle a toujours dû régler son rapport à la loi étrangère, au souverain étranger. Et elle l'a fait en demeurant une communauté consistante, en demeurant un système de communauté consistante, si on pense aux Keilotes de l'Est.
Qu'est-ce que c'est les Keilotes ?
Les communautés structurées avec un ordre juridique propre, un droit propre, mais qui s'accommode du principe d'Ina de Malchuta Dina, la loi étrangère et la loi, donc qui reste juridiquement autonome, mais relativement autonome, et qui continue à penser que la loi étrangère en exil vaut. Donc, ces communautés, elles vont devoir à la fois bénéficier de l'émancipation, comprendre le bénéfice que constitue l'émancipation, et elles le comprennent, hein, mais aussi maintenir leur vie propre. Parce que la vie propre des Juifs n'est pas une vie strictement individuelle. C'est pas possible une adhésion strictement individuelle au judaïsme, ça n'a pas de sens. Donc le franco-judaïsme, ben, il va devoir tirer les bénéfices de l'égalité des droits, permettre aux Juifs de vivre comme des individus, mais comme des individus reconstituant pour eux-mêmes le groupe qu'ils forment.
Quelle est votre lecture du franco-judaïsme ?
Moi, ma lecture, je l'exprimerais de la manière suivante, ce sont les noces extraordinaires, exceptionnelles, et la fertilisation croisée entre les Juifs et la France. L'adhésion puissante des Juifs à la patrie et à la République, qui s'exprime dans, évidemment, on pourrait en donner mille exemples, mais l'exemple, parce que c'est l'exemple suprême, c'est le sacrifice de leur vie au service de la nation lorsque la question s'est posée, et ce, dès la Révolution. Si vous vous promenez sous l'Arc de Triomphe et que vous regardez la liste des généraux napoléoniens, vous y voyez le nom du général Wolf, qui était juif, qui s'était engagé dès la Révolution et dont le talent et le courage a fait qu'il est devenu un officier supérieur. Et on voit tout au long de l'histoire française l'engagement des Juifs au service de la nation. C'est si vrai, notamment pendant la Grande Guerre, où le sacrifice des Juifs sera très conséquent. C'est si vrai que Maurice Barrès, qui avait été l'un des maîtres de l'antisémitisme, qui s'était fait élire à 27 ans comme candidat antisémite, Maurice Barrès écrira après la guerre Les familles spirituelles de la France, dans lequel, alors que lui pensait que les Juifs étaient racialement incompatibles avec la France, change son point de vue, revient, disons, à la théorie de Renan, selon laquelle est français celui qui, par son adhésion aux valeurs de la France, et en l'occurrence par le sang versé, est français. Et il va compter, en racontant un certain nombre d'histoires d'histoires d'Épinal, de juifs, du sacrifice de juifs pendant la guerre, il va compter les juifs au rang des familles spirituelles de la France. Donc, le franco-judaïsme, c'est ça. C'est le judaïsme est modifié par la France, parce que ce judaïsme, une fois encore, comme c'est une religion d'ordre privé, va se caler sur la pratique religieuse, par exemple, des catholiques ou des protestants. On est dans la sphère publique, rien ne distingue les juifs des autres. Donc les Juifs se calent sur le modèle français, et la France, c'est ça l'autre aspect de cet échange, la France leur permet
de s'accomplir dans tous les domaines. Et mon dictionnaire fourmille de figures grandioses du service de la France par des Français ou des Françaises d'origine juive. Et c'est ça. Alors c'est pour ça que les historiens ont forgé ce concept, parce que il n'y a pas d'autre exemple d'une telle alliance, d'une telle harmonie, d'une telle assimilation d'un côté des Juifs à une nation et d'un tel accueil, d'une telle hospitalité d'une nation aux Juifs.
Un mot sur Barrès. Dreyfus est capable de trahir, je le conclus, de sa race. Voilà ce qu'il écrivait en plein cœur de l'affaire Dreyfus. Et puis, il y a eu ce tournant, en effet, extraordinaire des familles spirituelles de la France. Pour ce qui est du franco-judaïsme, alors je voudrais peut-être ajouter une précision. C'est une manière d'interpréter l'histoire de France comme accomplissement messianique. Isidore Cahen, en 1880, disait « La Révolution, 1789, est notre seconde loi du Sinaï ». Et James Darmesteter, auquel vous consacrez des pages, Denis Oliven, dit « La Révolution met fin à l'histoire matérielle du peuple juif, ouvre une ère nouvelle et étrange dans l'histoire de la pensée ». Pour la première fois, cette pensée se trouve en accord et non plus en lutte avec la conscience de l'humanité. Le langage de Jérusalem est celui du monde moderne. Si vous voulez, et Lévinas a une métaphore très éloquente. Il parle du fait de récolter les semailles de moissons anciennes. Donc tout d'un coup, la France accomplit le judaïsme. Non seulement il n'y a plus d'antagonisme, mais il y a une sorte de filiation reconnue par les juifs eux-mêmes.
Non, ça c'est là, en effet, c'est, on constate le franco-judaïsme et ensuite on l'interprète. Et dans cette interprétation du franco-judaïsme, pourquoi diable cela se passe-t-il en France? C'est la question. Est-ce que c'est une affaire de climat, de hasard? Non. C'est une nécessité, explique un certain nombre d'esprits au XIXe siècle. Les frères Darmesteter, vous l'avez dit, leur thèse, elle est d'une simplicité abyssale, c'est la suivante. La révolution accomplit le message profond du judaïsme.
Voilà, c'est ça.
Le Dieu unique, le Dieu un, correspond à l'universalisme des Lumières. Et le messianisme juif correspond à l'idée de progrès. Mais il n'y a pas que les juifs qui le pensent. Ce qui est frappant, c'est que c'est la thèse de Renan. Renan pense ça aussi. Renan pense que les juifs ont introduit dans la France le ferment de la modernité. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, ce sera aussi les contre-révolutionnaires, les anti-modernes, et qui sont souvent antisémites, diront la même chose. Ils diront le virus malin de la modernité nous a été donné par les juifs, c'est eux qui nous ont contaminés. Mais oui. Ça, c'est une interprétation du franco-judaïsme.
Et alors, vous avez quelque chose à ajouter
sur le franco-judaïsme? Oui, je pense qu'il n'a pas la force que de symbiose que vous lui prêtez. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose comme une adhésion inouïe, miraculeuse, liée au fait que l'émancipation réalise quelque chose de la loi de Moïse, etc. Bon. Mais je crois qu'il ne se comprend bien que si on a deux figures européennes de la symbiose ou de la connexion, hein, la figure allemande et la figure française. Et la figure française a ce caractère particulier de ne pas mettre l'accent, comme le fait l'Allemagne, avec Hermann Cohen de façon inouïe, hein, de ne pas mettre l'accent sur le fait que c'est la nation, au sens de l'identité française, hein, qui exprime une vérité profonde du judaïsme, comme ce sera le cas en Allemagne. C'est la nation allemande qui exprime une vérité profonde du judaïsme. Ça sera la synthèse d'Hermann Cohen qui sera tellement terrible, en fait, hein, au tournant du XXe siècle. En France, c'est vraiment cette question du droit qui est au cœur de la symbiose. C'est vraiment cette question du droit. Et donc, hein, d'un droit extensible à toute nation. Et du même coup, le franco-judaïsme, c'est pour ça que je n'ai pas mis l'accent sur franco dans franco-judaïsme. Le franco-judaïsme, il correspond au fait que le judaïsme s'explique, s'explique à lui-même ce qu'est la question du droit.
Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, l'histoire a démontré la force incroyablement plus résistante du franco-judaïsme par rapport au modèle allemand. Selon la formule d'Anna Arendt, les juifs avaient adhéré à l'Allemagne, mais l'Allemagne n'avait pas adhéré aux juifs. Et c'est précisément pour le point que vous venez de soulever. C'est-à-dire que la conception allemande de la nation, la conception ethnique de la nation, c'est un modèle qui rend cette alliance avec les juifs beaucoup plus fragile, comparé au modèle républicain qui est l'alliance de Renan. L'adhésion, le fait qu'on soit l'héritier de l'histoire de la France et qu'on adhère à son projet d'avenir. Et c'est précisément la puissance de ce modèle dont les juifs sont en quelque sorte le marqueur. Ce qui est intéressant, je trouve, dans les juifs, c'est pas les juifs en tant que tels, encore que, c'est que si vous voulez avoir un bon marqueur de la puissance du modèle républicain, c'en est un. Et d'ailleurs, les gens qui s'éloignent de la République, en général, la première manifestation de cet éloignement, c'est l'antisémitisme.
Alors, je voudrais lire ici le testament de Marc Bloch, dont vous dites, Denis Oliven, dans votre dictionnaire, que ce testament est comme le manifeste du franco-judaïsme. Marc Bloch dit ceci: il m'était impossible d'admettre qu'en cette heure des suprêmes adieux, où tout homme a pour devoir de se résumer soi-même, aucun appel fût fait en mon nom aux effusions d'une orthodoxie dont je ne reconnais point le credo. Mais il ajoute: il me serait plus odieux encore que dans cet acte de probité, personne ne pût rien voir qui ressemblât à une lâche reniement. J'affirme donc, s'il le faut face à la mort, que je suis né juif, que je n'ai jamais songé à m'en défendre, ni trouvé aucun motif d'être tenté de le faire. Dans un monde assailli par la plus atroce barbarie, la généreuse tradition des prophètes hébreux, que le christianisme, en ce qu'il eut de plus pur, reprit pour l'élargir, ne demeure-t-elle pas une de nos meilleures raisons de vivre, de croire et de lutter? Et il termine: attaché à ma patrie par une tradition familiale déjà longue, nourri de son héritage spirituel et de son histoire, incapable en vérité d'en concevoir une autre, où je puisse respirer à l'aise, je l'ai beaucoup aimé et servi de toutes mes forces. Je n'ai jamais éprouvé que ma qualité de juif mit à mes sentiments le moindre obstacle. Au cours des deux guerres, il ne m'a pas été donné de mourir pour la France. Du moins, puis-je en toute sincérité me rendre témoignage, je meurs comme j'ai vécu, en bon français. On sait comment il est mort. Il a été fusillé en tenant la main d'un adolescent de 16 ans qui disait « Est-ce que je vais souffrir ?» Il disait « Non, non, tu ne vas pas souffrir. » Donc c'est ça, Marc Bloch. Et la question qui se pose, c'est qu'en est-il aujourd'hui du franco-judaïsme? Est-ce qu'il demeure? Est-ce qu'on peut dire encore la révolution à notre seconde sortie d'Égypte? Est-ce que ça continue à faire sens, tout ça?
Moi, je crois que...
Bruno Carsanti.
Après la Shoah, et à partir des années 60... quelque chose se joue en France de proprement inouï, en fait. Que le franco-judaïsme retrouve son lustre à partir de ce moment-là et se comprend parfaitement. Ça se comprend parce que la France est le seul pays d'Europe. Bon, c'est le plus grand centre juif d'Europe, c'est le troisième centre juif mondial, mais après la Shoah, c'est le seul centre juif d'Europe à partir des années 60, j'insiste, à partir des années 60, à compter plus de juifs après la Shoah qu'avant. Alors ça, symboliquement, c'est pour la conscience juive mondiale, ça continue à signifier quelque chose, y compris si on considère que 600 000 juifs par rapport, ou 500 000, ou 400 000, hein, les chiffres varient selon qu'on étend le cercle, juifs en France, c'est bien moins que 5 millions aux États-Unis, et évidemment plus encore en Israël. Voilà, donc, bien sûr, ça compte énormément. Et ça compte énormément dans l'histoire de l'Europe post-Shoah, hein, et pour moi, ça compte énormément aujourd'hui, parce que ça compte énormément aujourd'hui, étant donné ce que vit le polycentrisme juif, l'existence juive en diaspora et en Israël. Voilà.
Oui, mais donc vous diriez-vous qu'il y a une, dans l'Europe ou dans la France post-Shoah, une espèce de perpétuation du franco-judaïsme. C'est ça que vous expliquez.
Oui,
vous expliquez.
Alors, simplement sur le franco-judaïsme, on n'a pas, je crois, tout à fait la même lecture.
Ah,
c'est,
oui.
C'est ça la question. Moi, je trouve qu'il y a une force, vous avez entièrement raison, sur l'adhésion à la France et le fait que les Juifs reconnaissent quelque chose d'eux-mêmes dans la France. Mais ce que je crois aussi, c'est que par rapport à la symbiose judéo-allemande, hein, le judaïsme, c'est-à-dire la culture juive en France, était incomparablement plus faible, moins travaillé, hein, que du côté allemand. Et la Wissenschaft allemande a été dans l'adversité, vous avez entièrement raison, Arendt a raison, Scholem reprend ce point de Arendt, jamais les Allemands n'ont répondu à ce que les Juifs mettaient dans la nation allemande. Mais dans l'adversité, le judaïsme allemand a été incomparablement plus fructueux, plus riche en termes de pensée juive.
Mais c'est précisément, si je puis me permettre, de l'effet puissant du franco-judaïsme, c'est qu'il a un effet assimilationniste. D'ailleurs, c'est ce que dit Marc Bloch. On peut être juif en France sans professer, sans confesser de religion juive, tout en restant, en s'identifiant à quelque chose qui est difficile à définir, mais auquel on ne renonce pas. Mais je reviens à votre question. Est-ce qu'il existe encore ? Il y a une rupture très grande par rapport au, entre 1791-1950, c'est le franco-judaïsme. À partir des années 50, il est modifié pour quatre raisons. La première, c'est la Shoah. Même si la France, je le redis une fois encore, 75% des Juifs qui vivaient sur le sol de France ont échappé à l'extermination, alors que partout ailleurs dans l'Europe occupée, 75 à 90% des Juifs ont été exterminés. L'exception française continue même sous le régime d'un quarteron d'extrémistes antisémites qui avait pris le pouvoir non pas par les urnes, mais à l'occasion d'une défaite. Deuxième phénomène, bien évidemment, la création de l'État d'Israël, parce que le rapport simple et cristallin des Juifs avec leur nation est nécessairement diffracté par l'existence d'un nouvel État, même si les franco-juifs, les israélites, même si les israélites ont avec Israël un rapport qui consiste à dire « Nous avons un lien spirituel avec Israël », c'est ce que dit Aaron, « Nous sommes liés à Israël par le serment d'Auschwitz », c'est ce que dit Lévinas, mais nous avons une patrie. Israël est un refuge pour les Juifs qui n'ont pas de patrie. Et puis, il y a un troisième phénomène qui me paraît plus important que tout cela. C'est l'accomplissement de la société moderne, des individus, celle qui exalte les différences, celle qui valorise les minorités, celle qui organise la marge des fiertés. Dans ce contexte-là, évidemment, la formule de Clermont-Tonnerre, tout aux Juifs en tant qu'individu, rien en tant que nation, est à maudier, parce que apparaît une communauté juive qui n'existait en vérité pas jusque-là. Donc pour moi, il existe très profondément, parce que 2000 ans d'histoire de présence des Juifs en France, plus la Révolution, ça ne s'efface pas, mais il se modifie.
Alors moi, je vais dire le contraire. Je pense que le franco-judaïsme
est mort,
et je pense qu'on peut dater cette mort précisément de la Deuxième Guerre mondiale, de l'extermination. Et je voudrais citer Rabbi, personnalité influente du monde juif après-guerre. Nous avons été réintégrés dans notre condition d'homme libre. Nous avons recommencé à être des citoyens français. Nous avons repris notre activité professionnelle, du moins ceux qui l'ont pu. Mais ce que nous ne disons pas, c'est cette obsession constante, cette lancinante blessure secrète derrière chacun de nos propos. Non, jamais plus nous ne serons comme les autres. Nous ne pouvons pas oublier, nous n'oublierons jamais. Nous avons été la balayure du monde. Contre nous, chacun avait licence. Et c'est cela, mes amis, qui nous sépare de vous dans la liberté retrouvée, comme nous avons été séparés de vous sous l'occupation. Nous sommes désormais des séparés. Il y a comme quelque chose comme une rupture qui s'est faite à ce moment-là et qui n'a jamais été totalement colmatée. L'affaire Dreyfus est autre chose. Les Dreyfusards ont vaincu. Là, il y a eu l'État français, il y a eu tout ce qui s'est passé.
Si je peux me permettre...
Oui.
Bien sûr, il y a eu l'État français, mais il y a eu la résistance. Il y a eu le général de Gaulle. Je consacre des notices je consacre des notices à la présence des Juifs à Londres et à l'accueil par Londres des Juifs. Il y a eu la fraternité de la résistance. Il y a eu l'incroyable réaction des justes, les centaines de milliers de Français qui ont participé à des chaînes de sauvegarde du judaïsme. Est-ce qu'un pays qui est capable, comme nous l'avons fait là depuis quelques années, de faire entrer dans son panthéon, c'est-à-dire la maison de ses grands hommes et de ses grandes femmes, successivement Jean Zay, Simone Veil, Robert Badinter et bientôt Marc Bloch, est-ce que ce pays-là, et si vous aviez vu, comme je l'ai vu, masser le long de la rue de Soufflot derrière les barrières quand passait le cénotaphe de Badinter, ces Français qui n'étaient pas juifs et qui reconnaissaient dans Badinter celui qui exprimait l'esprit de la France, vous pensez que ce pays-là n'est pas un pays qui manifeste à l'égard des juifs l'hospitalité qui est celle du franco-judaïsme et dans lesquelles les juifs ne se sentent pas encore poussé par une adhésion très forte à ces valeurs?
Oui.
Moi, je crois le contraire.
Adhésion très forte, oui.
Est-ce que je peux commenter le passage que vous avez de Rami? Je crois que, moi, je suis entièrement d'accord avec vous dans votre adhésion à ce passage. Pourquoi? Pas parce que il y aurait quelque chose d'impossible à reconstituer, mais d'impossible à reconstituer dans sa complétude, oui. Impossible à reconstituer dans sa complétude, oui.
Et le modèle a bougé.
Le modèle a bougé. Et attendez, je pense que ça vaut pour tous les juifs post-Shoah, ça.
Oui.
Et ça vaut pour tout juif intégré dans des démocraties libérales qui sait que dans des États qui les ont émancipés, l'extermination a été rendue non seulement possible, mais voulue. Alors, à partir de là, secret, partout, pour tous les juifs, une condition de séparation dans la réadhésion, dans le fait de reprendre le projet d'émancipation et la ligne émancipatrice. Elle ne sera plus jamais reprise de la même manière après la Shoah.
Je m'élève à nouveau, pardonnez-moi, en faux, mais peut-être que c'est une affaire d'expérience personnelle. Moi, ma famille venait d'Allemagne. Ils sont quittés l'Allemagne en 1938. Toutes les portes du monde étaient fermées. Je raconte qu'il y a eu une conférence à Évian dans laquelle les pays se sont réunis. Seule la République dominicaine et Haïti étaient prêtes à accueillir des juifs. Mais la France a ouvert ses portes à ma famille. Ensuite, mon père, sauvetage au carré, a été protégé, caché à 11 ans par un médecin catholique à Chamonix, une petite équipe d'un préventorium. Ils étaient 10 ou 12 professionnels. Ils ont caché une demi-douzaine d'enfants juifs au péril de leur vie. Dans ma famille, par exemple, pour mon père, l'idée de la blessure dont parle le rabbi, c'est l'inverse. Mon père a, à l'égard de la France, une dette qu'il a transmise à ses enfants et que j'ai transmise aux miens, qui est l'expression même du franco-judaïsme. Donc je comprends l'expérience de rabbi, mais cette expérience est incomplète. Et je pense que, fondamentalement, la structure qui a créé l'adhésion de la France aux Juifs et des Juifs à la France n'a pas été modifiée.
Elle n'a pas été modifiée. Moi, mais mon père a été déporté de France. Il est revenu d'Auschwitz. Mes parents étaient de parfaits citoyens, mais il y avait une fragilité. Il y a l'idée que tout est possible.
Voilà.
Et cette idée, elle est quand même répandue. Et puis, alors, je vais aller plus loin. Je pense qu'un autre franco-judaïsme est né. Non plus communauté de valeurs, mais une sorte de communauté de destin. Les injures les plus répandues dans les territoires perdus de la République sont ça de juif et ça de français. Donc, une espèce de francophobie en France et de judéophobie qui progresse de concert. Et je voudrais quand même vous parler du livre de Houellebecq, Soumission. Sa petite amie s'en va, la petite amie du narrateur, et elle fait son alia. Et lui dit, moi je n'ai pas d'Israël. Voilà. Donc il y a quand même une situation qui est changée avec, effectivement, cette montée de la francophobie et cette montée beaucoup plus spectaculaire encore de l'antisémitisme. Un antisémitisme non pas populaire, mais universitaire. C'est-à-dire, voilà, sioniste hors de nos facs, disait-on à l'école normale supérieure tout récemment. Et des juifs, aujourd'hui, partagés entre l'indignation qu'ils éprouvent devant la politique de Netanyahou, Smotrich et Ben-Gvir, et l'effroi devant la montée d'un antisémitisme favorisé par une partie de la gauche pour des raisons électorales. Donc tout ça crée un climat que je trouve très lourd, Bruno Carsanti.
Oui, le climat est très lourd. Je crois que pour comprendre son émergence, il faut partir d'une crise, du modèle d'intégration tel que, pas seulement la France, mais les pays européens l'ont construit, et une crise qui s'est jouée, sans le savoir, sur un déplacement quant à la considération des Juifs. Voilà. Cette crise est si vive, c'est que ce qu'on n'a jamais pleinement analysé, c'est la place que prenait ce que les Juifs avaient subi. Hein? Le statut et le sort réservé à cette minorité en particulier en tant qu'elle représentait la condition minoritaire en tant que telle, hein? Comme telle. On n'a jamais considéré à quel point ça avait compté dans la reconstruction de l'Europe après le désastre. Et ça a compté essentiellement à partir des années 60, je pense, et monté alors une conscience de ce que la Shoah représente pour comprendre la politique, et les risques que comporte toute démocratie et tout État. Et que c'est ça qui s'est érodé, qui s'est abîmé, dans les années 90, et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et donc, revenir sur la mémoire post-Shoah a pour moi une importance politique progressiste, si vous voulez. Hein. Elle a une importance politique pour redonner au progressisme la ligne qu'il avait su prendre à l'égard des Juifs, mais à l'égard de toute minorité en réalité, hein, dans une certaine conception de l'intégration, et qu'il a perdue.
Alors, aujourd'hui, en tout cas, on pourrait dire qu'un juif est un homme que les progressistes tiennent pour raciste, voire génocidaire, tant qu'il n'a pas renié Israël et affiché un soutien inconditionnel à la cause palestinienne.
Pas tous les progressistes. Non,
Une partie d'entre eux, Denis Oliven.
Non, mais je pense qu'il faut qu'on nomme précisément de quoi on parle. D'abord, l'antisémitisme dont on parle est un variant nouveau d'un virus ancien. Il y a eu historiquement l'antijudaïsme chrétien, le peuple déicide, dont l'Église s'est purgée d'une manière absolument extraordinaire. Et je raconte notamment comment Jules Isaac, l'historien français, y a contribué.
Oui, vous faites un très bel article sur Jules Isaac.
Il y a eu dans les années, au milieu du XIXe siècle, l'antijudaïsme socialiste, Fourier, Proudhon et même Marx. Les Juifs, rois de l'argent. Il y a eu ensuite...
Et d'ailleurs, l'affaire Dreyfus... C'était la rupture
exactement
de cette gauche avec l'antisémitisme. Maintenant, la gauche y revient.
L'affaire Dreyfus,
Une partie de la gauche.
L'affaire Dreyfus, c'est le moment où la gauche devient elle-même. Elle cesse de défendre seulement le prolétariat pour devenir l'avocat de l'humanité tout entière en défendant les Juifs. Troisième variant, le pire, bien évidemment, c'est l'antisémitisme proprement dit, xénophobe, nationaliste et racial, les Juifs, race inférieure et maléfique, pour partie inventée en France, mais que l'apothéose tragique de son expression avec le nazisme va liquider. On voit apparaître depuis une trentaine d'années, mais il a explosé avec Gaza, une nouvelle forme d'antisémitisme, l'anti-sionisme. Non pas la critique légitime de l'État d'Israël, mais la négation du droit à l'existence d'État d'Israël, qui fabrique l'équation suivante. Tout Juif est comptable de tout Israël. Tout Israël est comptable de son gouvernement. Son gouvernement est génocidaire, donc tout Juif est génocidaire. Yankelevitch avait dit qu'il l'avait vu venir. Il avait dit que cet antisémitisme nouveau avait présenté un risque majeur, c'est qu'il était l'antisémitisme vertueux. Puisque vous combattez le mal, les génocidaires, quand vous virez des enfants d'un avion, quand vous interrompez le philharmonique, quand vous interdisez à Eva Illouz de participer à un colloque,
Vous êtes du côté du bien. Donc c'est cet antisémitisme-là nouveau auquel nous sommes confrontés. Il faut bien d'abord le préciser. Deuxièmement, cet antisémitisme concerne une fraction extraordinairement étroite de la population. Quand on regarde aujourd'hui les enquêtes d'opinion, il y a 10% des Français, qui, d'une part, ont des préjugés antisémites et, d'autre part, acceptent ou souhaitent la violence anti-juive. Et c'est ces 10%? C'est très important de le savoir. C'est les électeurs d'extrême-gauche, 30%, c'est-à-dire 3 fois plus que la moyenne des Français, les jeunes de moins de 34 ans, 25%, 2,5 fois plus que les Français, et la communauté arabo-musulmane, enfin une partie, 16%, c'est-à-dire 1,5 fois de plus. Donc, voilà où sont les cibles. Quand on traverse l'histoire, quand on voit l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme des années 30, ça n'a strictement rien à voir. Donc on a un problème localisé, si j'ose dire, dans l'opinion. Donc pour moi, la question la plus importante est celle des partis politiques, LFI pour ne pas les nommer, qui donnent accès dans la sphère publique, qui légitime, qui légalise ce discours antisémite. Donc c'est un combat qu'on doit mener, mais on doit le mener dans des conditions autrement plus favorables qu'on a mené le combat au moment de l'affaire Dreyfus ou que Blum l'a mené au moment du Front populaire.
C'est quand même... un seul mot, il y a des élus au Parlement qui propagent cet antisémitisme et qui, effectivement, flattent leur électorat avec cet antisémitisme. Bon, donc, c'est quand même pas rien.
Ouais. J'ai pas dit que c'était rien. Non, j'ai dit que c'était localisé.
Je peux dire quelque chose.
Bruno Carsanti.
D'une part, vous voyez, on a dû distinguer, au sein du progressisme ou au sein de la gauche, une partie de la gauche. Moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y a d'avenir de la gauche, en fait, d'avenir du progressisme, que si cette critique interne est faite. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'il n'y a de sort positif pour les Juifs que sur cette ligne du progressisme. Parce que, oui, mais c'est ça la véritable contradiction, Alain Finkielkraut. C'est ça. C'est le fait que ça n'est qu'en reprenant la dynamique des progrès des droits et des droits des minorités, mais en la reprenant d'une manière qui a été lâchée par le progressisme, que le sort des Juifs sera meilleur et qu'on reviendra à l'adage dont on est parti. Heureux comme Dieu en France.
Alors, une double question. Que faire face à un antisémitisme désormais antiraciste? Parce que les Juifs ne sont plus une sale race. Les Juifs qu'on déteste, mais ce sont de sales racistes. Ça, c'est la première chose. Que faire contre un antisémitisme anti-raciste? Et que faire quand on veut défendre les minorités contre un antisémitisme qui vient d'une de ces minorités, enfin qui se propage à l'intérieur d'une de ces minorités? C'est ce deux tâches très difficiles à mener pour le progressisme. Alors, Bruno Carsanti.
D'abord, il se propage à l'intérieur d'une de ces minorités dans un contexte où la majorité le favorise. Voilà. Je vais dire que le mal ne vient pas exclusivement. Et bien sûr, il a l'un de ses vecteurs dans ces minorités, dans la manière dont ces minorités comprennent mal leur propre intégration et du même coup sont amenées à imputer ce qui leur arrive, le déficit qu'ils subissent à une autre minorité jugée, en fait, majoritaire, et jugée faussement majoritaire. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est si la situation est celle-ci, c'est parce que le rapport entre majorité et minorité s'est grippé. C'est que l'intégration de la nation française, la société française dans son ensemble, a perdu sa clé. Voilà.
Alors, moi, je crois que quand on regarde les statistiques, une fois encore, les enquêtes, on a deux problèmes de nature différente. On a un problème éducatif et on a un problème politique. Le problème éducatif, c'est qu'il y a en effet des jeunes de moins de 34 ans ou une fraction de la communauté arabo-musulmane. Il faut quand même rappeler que la majorité de la communauté arabo-musulmane n'accepte pas la violence anti-juive. Donc là, il faut qu'on fasse un travail éducatif.
Elle ne manifeste pas non plus « not in my name ».
Non,
on aimerait que ça se fasse.
Non, mais bon, en tout cas, dans les sondages, elle réprouve la violence anti-juive. Donc, il y a un combat éducatif à mener, et je crois que
la mémoire de la Shoah ne suffit pas. Considérer que la mémoire de la Shoah est l'instrument de la lutte contre l'antisémitisme ne suffit pas. Je pense qu'on a un travail qu'on n'a pas fait et qu'on doit faire d'éducation, notamment de la jeunesse, pour simplement l'acclimater aux faits juifs, pour lui faire comprendre ce que c'est. Et puis il y a un combat d'une toute autre nature, qui est un combat politique, comme il a été mené au moment de l'affaire Dreyfus, comme il a été mené dans les années 30, un combat politique contre une force politique qui a décidé d'acclimater dans la scène politique ce thème. Il faut, comme les Anglais l'ont fait, le Parti travailliste était victime de la même maladie, il s'est purgé de son antisémitisme et il s'est débarrassé de ses dirigeants antisémites. Alors, la gauche de la gauche, dans lequel ce virus fait des ravages, ou bien elle est capable de se purger de sa maladie, ou bien il faudra qu'on la mette au banc de la société française. Et il faudra qu'on crée un cordon sanitaire, et ceux qui doivent créer ce cordon sanitaire, c'est la gauche démocratique, celle qui n'accepte pas ce discours antisémite.
Un dernier mot, Bruno Gersanti.
Oui, il y a de l'antisémitisme et il y a du racisme. Les deux mots existent.
Non.
D'accord ? Il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que des minorités sont discriminées qui ne sont pas la minorité juive. La minorité juive subit des atteintes spécifiques. Hein, et ce qu'il faut, c'est comprendre la diversité de ces atteintes et traiter le mal dans sa globalité.
Très bien. Il faut traiter le mal dans sa globalité. La mémoire de la Shoah ne suffit pas, d'autant plus qu'on retourne la Shoah aujourd'hui contre les juifs avec l'accusation de génocide. Peuple génocidaire, ça veut dire peuple nazifié. Et on devrait concevoir une critique vigoureuse d'Israël sans passer par l'accusation de génocide. C'est du moins à souhaiter. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour cette belle conversation. Je rappelle le titre de vos livres. Denis Oliven, Dictionnaire amoureux des Juifs de France, chez Plon. Et Bruno Gersanti, Les paradoxes de l'intégration, l'Europe et les Juifs, aux éditions Kalman-Lévy, dans la belle collection Diaspora. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Raymond Alboui. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Anna Arendt à Paris. Mes invités seront Martine Lebovici et Marina Touillez. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.